VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonsoir et bienvenue, Eric Manilakiza pour Le Monde Aujourd'hui, au sommaire de cette édition du jeudi, du vendredi 14 juillet 2023. Au Sénégal, l'opposant Sonko investit candidat à la présidentielle de 2024 malgré une éligibilité incertaine. L'ONU exprime son inquiétude après des manifestations meurtrières au Kenya, guerre au Soudan. Internet et réseaux téléphoniques ont été coupés à Khartoum pendant plusieurs heures ce vendredi. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken tente de rallier l'Asie du Sud-Est contre la coercition chinoise en Asie-Pacifique. D'intenses vagues de chaleur en cascade frappent durement de nombreuses régions du monde. Dans 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal. La justice sénégalaise a annoncé ce vendredi le lancement d'un mandat d'arrêt international contre Juan Branco, avocat français de l'opposant sénégalais Ousmane Sonko, pour des crimes et délits en lien avec les troubles survenus début juin au Sénégal. En revanche, Juan Branco avait annoncé le 22 juin avoir déposé une plainte en France et une demande d'enquête à la Cour pénale internationale de La Haye contre le président sénégalais Macky Sall pour crimes contre l'humanité après les pires troubles qui est connu début juin le Sénégal depuis des années. Monsieur Branco vise également le ministre de l'Intérieur sénégalais, le commandant de la gendarmerie sénégalaise, ainsi qu'une centaine d'autres individus et concerne la période allant de mars 2021 à juin 2023. L'opposant sénégalais Ousmane Sonko a été investi candidat à l'élection présidentielle de 2024, a annoncé ce vendredi son parti en dépit de l'éligibilité incertaine de M. Sonko. Rosine Mounezer.
L'investiture de M. Sonko a eu lieu jeudi lors d'une réunion de la haute autorité de régulation du parti PASTEF, son parti qui a validé les décisions issues des délégués des 46 départements et de la diaspora, dit le communiqué. PASTEF dénonce dans ce texte l'interdiction illégale du meeting prévu samedi après-midi dans un stade à Guédiéway, dans la banlieue de Dakar. M. Sonko devrait s'exprimer vendredi selon son parti. Il est bloqué par les forces de sécurité chez lui à Dakar, séquestré selon lui. Sonko a été condamné le 1er juin à 2 ans de prison ferme dans une affaire de mœurs, un verdict qui le rend inéligible en l'état selon ses avocats et des juristes. Le 6 juillet, l'opposant a promis un chaos indescriptible s'il est empêché d'être candidat à la présidentielle. Nul ne peut empêcher l'investiture du président Ousmane Sonko ainsi que sa participation à l'élection présidentielle du 25 février 2024, dit le communiqué de PASTEF.
La CPI a estimé ce vendredi à environ 10 500 le nombre de victimes de l'ex-chef de guerre congolais Bosco Ntaganda, éligible à des réparations et confirmé le montant total à 31,3 millions de dollars. Surnommé Terminator, M. Ntaganda a été condamné à 30 ans de prison en 2019 pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, et dont des crimes sexuels, massacres, persécutions et transferts forcés de la population civile, commis en RDC au début des années 2000. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme s'est dit inquiet de la violence meurtrière qui a émaillé des manifestations au Kenya et des allégations de sévères répressions policières. Selon la Commission nationale kenyane des droits de l'homme, 9 personnes ont été tuées au cours de manifestations contre le coût de la vie et de nouvelles taxes. Le ministre kenyan de l'Intérieur a précisé jeudi que plus de 300 personnes ont été arrêtées. Au Soudan, Khartoum a été privé de communication pendant plusieurs heures ce vendredi. L'armée et les forces paramilitaires continuent de se livrer à de violents affrontements dans la capitale. Yacouba Ouédraogo.
La cause du dysfonctionnement n'a pas été identifiée, mais certains réseaux mobiles ont été rétablis plus tard, d'après les habitants. Dans la matinée, des nuages de fumée noire ont été aperçus près du quartier général de l'armée, dans le centre et le sud de Khartoum. Des témoins ont évoqué des affrontements avec toutes sortes d'armes. À Omdurman, des habitants ont fait état d'avions de chasse et de drones survolant la banlieue nord. Depuis le 15 avril, le chef de l'armée Abdel Fattah al-Burhan est en guerre contre le général Mohamed Hamdan Daglo, qui dirige les forces de soutien rapide. Selon l'ONU, près de 1,5 million d'habitants sont partis de Khartoum. Ceux encore bloqués chez eux ont souvent recours à Internet pour répondre à leurs besoins élémentaires, mettant en place des initiatives de financement participatif pour trouver des itinéraires d'évacuation, de la nourriture et des médicaments. Les combats ont fait près de 3 000 morts et plus de 3 millions de déplacés et de réfugiés selon l'ONU. Le procureur de la CPI a annoncé l'ouverture d'une nouvelle enquête pour crimes de guerre au Darfour.
La gauche radicale sud-africaine, le parti de Julius Malema, les combattants de la liberté, s'est dite prête à dépasser de sérieuses divergences idéologiques pour former une large coalition et déloger l'ANC au pouvoir depuis la fin de l'apartheid. Pour la première fois depuis l'avènement de la démocratie en 1994, l'ANC risque de perdre l'an prochain sa majorité parlementaire et donc la présidence dans un contexte de mécontentement croissant face à la corruption, une crise énergétique sans précédent, une économie affaiblie et un chômage endémique.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Des vagues de chaleur intense frappent durement de nombreuses régions du monde, de l'Europe à la Chine en passant par les États-Unis. Des températures records sont attendues ce week-end, une illustration des conditions extrêmes amplifiées par le réchauffement climatique. Mohamedou Onfa.
Plus de 100 millions d'Américains sont sous le coup d'alerte à la chaleur selon le site gouvernemental heat.gov. Le Texas, l'Arizona, le Nevada et la Californie s'attendent à des conditions potentiellement dangereuses dans les jours qui viennent, ont averti les services météorologiques américains. Au même moment, l'Italie, l'Espagne, la France, l'Allemagne, la Grèce et la Pologne font également face à une vaste vague de chaleur. L'Afrique du Nord est également touchée. Au Maroc, qui subit une série d'épisodes caniculaires depuis le début de l'été, une alerte rouge a été émise pour plusieurs provinces. Au niveau mondial, le mois de juin a été le plus chaud, selon les agences européennes Copernicus et américaines NASA et NOAA. Puis, la première semaine de juillet a été à son tour la plus chaude jamais enregistrée, selon des données préliminaires de l'Organisation météorologique mondiale. La chaleur est un des événements météorologiques les plus meurtriers, a rappelé l'agence onusienne. Selon une récente étude l'été dernier, rien qu'en Europe, les fortes températures ont causé plus de 60 000 décès.
Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a enjoint ce vendredi ses homologues d'Asie du Sud-Est de faire respecter la liberté de navigation en mer de Chine méridionale et orientale et exhorté au maintien du statu quo dans le détroit de Taïwan où la Chine a organisé des manœuvres. Jean-Roger Bion.
Anthony Blinken a été direct et a affirmé que le ministre russe des Affaires étrangères n'avait présenté qu'une vision négative des choses lors des discussions de Jakarta avec les pays d'Asie du Sud-Est. La participation de M. Lavrov n'a été ni constructive ni productive et il a offert une présentation et un agenda totalement négatif, a dit M. Blinken aux médias à l'issue de la réunion. Il a relevé que M. Lavrov attribuait effectivement tous les problèmes du monde aux États-Unis. Anthony Blinken a également exhorté la Russie à prolonger l'accord sur les céréales ukrainiennes qui expire lundi soir après que le président turc Recep Tayyip Erdogan a affirmé que son homologue russe Vladimir Poutine avait accepté de le faire. Messieurs Blinken et Lavrov étaient à Jakarta pour rencontrer les dirigeants d'Asie du Sud-Est et tous deux se sont également entretenus avec le patron de la diplomatie chinoise, Wang Yi.
Par ailleurs, M. Blinken a assuré que les États-Unis travaillent avec leurs alliés pour dissuader la Corée du Nord de toute agression au lendemain de l'annonce par Pyongyang du lancement d'un nouveau missile balistique intercontinental. Le président français Emmanuel Macron et le premier ministre indien Narendra Modi, invités d'honneur pour la fête nationale, ont affiché ce vendredi leur intimité stratégique et leur volonté de renforcer leur partenariat après avoir assisté ensemble au traditionnel défilé militaire du 14 juillet. Paris et New Delhi ont dévoilé plusieurs accords de coopération dans le domaine spatial, dont la mise en place d'un système conjoint de surveillance maritime par satellite et le démarrage de la construction du satellite franco-indien infrarouge thermique Trishna. Le président turc a affiché sa confiance ce vendredi sur l'avenir des exportations de céréales ukrainiennes via la mer Noire, assurant que son homologue russe est d'accord avec lui sur le principe d'une extension de l'accord qui expire lundi soir. Il a permis sur l'année écoulée de sortir près de 33 millions de tonnes de céréales, blé et maïs, principalement des ports ukrainiens en dépit de la guerre. La production de l'Ukraine est jugée essentielle pour empêcher une envolée des prix des denrées sur le marché mondial qui risquerait de déclencher une crise alimentaire dans les pays les plus vulnérables. Le Kremlin a dit ce vendredi envisager la légalisation des sociétés militaires privées, notamment le groupe Wagner, dont l'existence n'est actuellement toujours pas autorisée par la loi russe malgré leur implication dans le conflit ukrainien. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a adopté ce vendredi une résolution appelant la communauté internationale à prendre des mesures de supervision de l'intelligence artificielle.
Vous suivez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Dans votre actualité économique en Afrique et ailleurs, retrouvez Alexandrine Rollognon qui vous présente ce soir la Minute Éco.
Tout d'abord, les levées de fonds des start-up africaines ont chuté de 54% au premier semestre 2023. Selon le dernier rapport du cabinet Magnite, l'emprise persistante de l'espace du capital risque sur l'Afrique se reflète fortement dans le nombre d'opérations de capital risque réalisées dans des pays comme le Nigeria, le Kenya, l'Afrique du Sud et l'Égypte. 100 millions, c'est le nombre de personnes qui, selon Mark Zuckerberg, se sont inscrites à sa nouvelle application Threads dans les 5 jours suivant son lancement. Grâce à ces chiffres, Threads a détrôné le phénomène d'IA ChatGPT en tant qu'application grand public à la croissance la plus rapide de tous les temps. Et pour finir, les acteurs américains ont lancé un mouvement de grève qui risque de constituer la pire paralysie de l'industrie cinématographique en plus de 60 ans. Ils rejoignent les scénaristes à l'arrêt depuis plus de 2 mois. La grève a débuté à minuit hier, heure de Los Angeles, conformément à ce qu'avait dit le syndicat des acteurs après l'échec des négociations avec studios et plateformes de streaming.
Et sans transition, nous passons à votre page sport avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Les groupes des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, zone Afrique, sont connus.
Oui, le tirage au sort a eu lieu hier jeudi à Abidjan avec 9 billets à la clé. Si aucun groupe de la mort ne se dessine, l'Égypte devra tout de même se méfier du Burkina Faso et le Mali devra écarter le Ghana présent au Qatar pour se qualifier pour le Mondial 2026 qui va se dérouler au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Le Maroc, devenu l'automne dernier au Qatar, la première équipe africaine à atteindre les demi-finales d'une Coupe du Monde, affrontera notamment la Zambie, le Congo et la Tanzanie. Le continent africain n'a longtemps eu que 5 représentants en phase finale d'un mondial. Il profite du passage à 48 nations participantes contre 32 jusque-là pour augmenter son nombre de places. Les 9 premiers de chaque groupe seront directement qualifiés. Les 4 meilleurs deuxièmes se disputeront des barrages dont le vainqueur tentera d'obtenir un ultime ticket via un tournoi de qualification intercontinentale prévu en mars 2026. Les 2 premières journées des éliminatoires se dérouleront les 13 et 21 novembre prochains.
Basketball, le Maroc sort la RDC de la Frocane.
En demi-finale ce vendredi, les Lions de l'Atlas locaux ont battu l'équipe championne en titre, la RDC, 76 à 69. Les Marocains se projettent ainsi en finale où ils affronteront ce dimanche la Côte d'Ivoire ou le Rwanda, qui sont aux prises dans l'autre demi-finale. En match de classement, le Kenya a pris le dessus sur le Nigeria, 71 à 69, tandis que la Tunisie a battu l'Angola, 68 à 65.
Tennis, Hans Jaber, de retour en finale à Wimbledon.
La Tunisienne, sixième mondiale, s'est qualifiée hier jeudi pour sa deuxième finale d'affilée à Wimbledon en éliminant la Bélarusse Arina Zabalenka. Deuxième mondiale, 6-7, 6-4, 6-3. À 28 ans, Hans Jaber, qui a perdu 2 fois en finale d'un majeur Wimbledon et l'US Open en 2022, tentera de remporter son premier titre du Grand Chelem samedi contre la Tchèque Markéta Vondrousova, 42e mondiale, elle aussi en quête d'un premier titre à ce niveau.
Amende pour Barcelone et Manchester United.
L'UEFA a infligé au FC Barcelone et à Manchester United des amendes pour avoir transgressé les règles du fair play financier. L'instance de contrôle financier des clubs a condamné le club catalan à 500 000 euros d'amende pour une mauvaise présentation de ses comptes. Le Barça a intégré dans ses revenus des bénéfices sur la cession d'actifs incorporels qui ne devraient pas y figurer, seuls les transferts de joueurs étant comptabilisés dans cette catégorie. De son côté, Manchester United écope de 300 000 euros d'amende pour une entorse mineure au principe d'équilibre des comptes imposé depuis 2011 aux clubs engagés dans les compétitions européennes. En clair, au nom du fair play financier, aucun club ne doit dépenser plus qu'il gagne.
Et c'est tout pour les sports. Merci à Kouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manirakidza de retour avec vous pour les dossiers du jour. En RDC, réaction du parti de Chérubin Okende, ancien ministre du Transport et député du Congrès Ensemble pour la République, retrouvé mort hier, le corps criblé de balles dans sa voiture sur une grande avenue de Kinshasa. Eddy Issango a joint Olivier Kamitatou, le porte-parole de l'opposant Moïse Katumbi.
Je fais partie de lui, j'ai au contraire une enquête indépendante pour faire toute la lumière sur l'assassinat de notre frère et ami Chérubin. Nous voulons une enquête indépendante et nous ne prêtons aucun crédit au gouvernement et aux régimes en place pour organiser cette enquête. Nous exigeons une enquête totalement indépendante. Nous souhaitons que la MONUSCO, nous souhaitons que les partenaires de la République démocratique du Congo, comme les États-Unis et l'Union européenne, soient associés, que l'Ex-Esper soit associé. Ils disposent des moyens techniques, technologiques, qui nous permettront très rapidement d'identifier les assassins et leurs commanditaires. Et en tant que membre d'ensemble, je peux vous dire que nous n'aurons la paix que quand nous saurons exactement la vérité et nous aurons identifié ceux qui ont commis ce geste irréparable.
Avant son assassinat, il était convoqué, d'après ce qu'on apprend, à la Cour constitutionnelle. Qu'est-ce que vous pensez du fait que, dès là, il ait été porté disparu et on apprenne son décès?
Être victime d'un guet-apens là où tout le monde doit se sentir le plus en sécurité, c'est tout à fait inacceptable. Et j'ai entendu les magistrats pérorer hier se substituer à aux enquêteurs, en prétendant ceci ou cela, je pense qu'il y a un mélange des genres. Tout ce qu'on retiendra, c'est que Floribert Chebéa avait été convoqué à la police par le général John Nou. Il n'en est jamais revenu. Chérubin Okende a été convoqué par la Cour constitutionnelle. Il n'en est jamais revenu lui aussi.
Et il s'est fait quelques temps déjà, quelques membres de votre parti, aux proches de Moïse Katumbi sont soit arrêtés et ceci est arrivé. Qu'est-ce que ce décès fait par rapport aux élections? Est-ce que si vous avez peur, quels sont vos sentiments maintenant?
Écoutez, on est à 5 mois des élections et il y a 2 semaines, un Mbujimaï, le président de la République, a lâché la bride à tous les faucons en prétendant que peu lui importaient les droits humains, les droits de l'homme et qu'il agirait par la force et la brutalité contre tous ceux qui, de loin ou de près, pourraient vouloir la stabilité du pays. Donc lui-même, le président de la République, a dit que le droit et la justice n'apportaient pas tant que son pouvoir lui revenait calmement entre les mains. On a lâché les chiens, on a lâché les muselières. Donc, et vous savez, quand un animal attaque, celui qui a peur, l'animal sent la peur. Il n'y aura pas de peur du côté de ensemble. Il n'y aura pas de peur du côté de ceux qui défendent les valeurs de la démocratie et le peuple congolais. Nous resterons debout. Le président Moïse Katumbi l'a affirmé. Nous demandons simplement la vérité.
Olivier Kamitatou, porte-parole de l'opposant congolais Moïse Katumbi. Les 7 pays voisins du Soudan ont réclamé lors d'un sommet jeudi en Égypte l'aide des bailleurs internationaux pour accueillir plus de 700 000 réfugiés. Les combats entre l'armée dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan et les forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo se poursuivent et poussent les populations à la fuite vers les pays voisins. Certaines continuent d'arriver dans le camp d'Adré, dans l'est du Tchad, voisin Yacouba Ouédraogo.
Chaque jour, elles emportent ce qu'elles peuvent et utilisent des moyens du bord pour fuir les violences. Ces milliers de personnes quittent la région soudanaise du Darfour pour se rendre à Adré, de l'autre côté de la frontière au Tchad voisin. Beaucoup d'entre elles ont des récits poignants sur la violence à laquelle elles ont échappé. Ouda Oumza, 23 ans, prépare un repas à l'extérieur d'une tente de fortune. Il y a 3 mois à peine, elle vivait à El Geneina, au Soudan, avec son mari et ses 2 filles en bas âge, jusqu'à ce que les violences les obligent à fuir.
Le matin même, ils nous attaquaient. Et pendant qu'ils nous attaquaient sur les routes, ils nous ont tout pris. Argent, nourriture, vêtements. Et ils ont même tué des parents et des amis. C'était difficile parce qu'ils ont fait des choses vraiment horribles.
Selon l'Organisation internationale pour les migrations, plus de 2,4 millions de personnes sont déplacées à l'intérieur du Soudan, tandis que près de 724 000 ont traversé les frontières du pays. L'Égypte a reçu le plus gros contingent avec plus de 255 000 réfugiés, suivi du Tchad, 240 000, et du Soudan du Sud, 160 000. La fuite est très souvent périlleuse car en plus des conditions climatiques pas toujours clémentes, les fuyards sont parfois dépouillés et manquent de tout à leur arrivée. Abu Obida Abrachid a quitté El Geneina au Soudan avec son frère, mais ils ont été séparés pendant le voyage et il a perdu le contact avec lui depuis lors.
Sur notre chemin vers l'Adré, nous les trouvons ainsi que des cadavres. Ils tuent des gens. Ceux qui venaient tuer des gens étaient sur la route avec des motos, des armes et des voitures. Ils entrent dans des maisons et ils prennent beaucoup de choses.
Les lignes d'approvisionnement en nourriture à travers le Soudan ont été coupées. La communauté internationale avait promis 1,5 milliard de dollars lors d'un sommet en juin, mais n'a pas encore tenu ses promesses selon le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, qui appelle à aider les pays voisins pour juguler cette crise. Pierre Onoura est responsable au programme alimentaire mondial pour le Tchad.
Nous estimons maintenant, le HCR et le gouvernement, qu'environ 100 000 personnes ont déjà franchi la frontière à Adré. Aujourd'hui, nous sommes ici pour faire une distribution de nourriture. Nous allons leur donner une ration minimale pour 1 mois. Ce sont beaucoup de femmes et d'enfants, comme vous pouvez le voir. Ils ont vraiment besoin de refuge. Ils arrivent sans rien.
Environ 3 000 personnes ont été tuées depuis le début du conflit au Soudan. Les Nations Unies ont mis en garde contre d'éventuels crimes contre l'humanité au Darfour. La Cour pénale internationale a ouvert une nouvelle enquête pour crimes de guerre dans cette région, appelant à ne pas permettre à l'histoire de se répéter.
Fin ce vendredi du sommet des affaires Afrique-États-Unis qui s'est tenu à Gaborone au Botswana pendant 4 jours. Le sommet avait pour thème principal l'amélioration de la valeur de l'Afrique au sein des chaînes de valeur mondiales. Plus de 1300 personnes, dont 9 chefs d'État africains, ont participé à ce sommet. Que retenir de ce forum? Nous avons joint à Gaborone l'ancien ambassadeur du Bénin à Washington, Omar Haruna.
Depuis que ce sommet est en train de se faire en Afrique, le 13e du genre, je crois que c'est l'un des sommets les plus vibrants sur le plan de l'énergie. Je parle de l'énergie entre les participants et sur le plan des affaires. Ce qu'il faut retenir essentiellement de ce sommet, c'est que ce sommet a renforcé les liens d'affaires entre les États-Unis et l'Afrique à tout point de vue. Et aussi, il y a de très bonnes résolutions qui sont sorties de ce sommet. Ça veut dire quoi? Vous savez, on a parlé de l'AGOA la dernière fois. Il est unanime au niveau de tous les participants de ce sommet que l'AGOA doit être renouvelée et que c'est une très bonne voie pour renouveler. Et il a été constaté aussi par rapport à l'AGOA que, effectivement, il y a certains pays africains qui n'en profitent pas et on devrait tout faire pour qu'ils en profitent. Et au niveau des affaires, il y a eu des deals qui ont été faits. Il y a aussi des annonces qui ont eu à faire. Le gouvernement américain avait alloué comme package financier aux Africains près de 15 milliards et quelques de dollars. Et ça a été augmenté de plus d'un milliard cinq maintenant. Donc, de tout point de vue, ce sommet est très important et ça a avancé et les intérêts de l'Afrique.
Quelles sont ces nouvelles annonces?
Par exemple, Joe Biden sera en Afrique cette année. Le constat est que au moins déjà depuis décembre jusqu'à aujourd'hui, il y a à peu près 9 hauts officiels des États-Unis qui sont allés en Afrique. pour des deals. Nous allons, il y a des deals commerciaux qui ont été mis en place. Et donc, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un changement très important qui va se constater dans les relations entre les États-Unis et l'Afrique.
Et en termes de perspective ou la mise en œuvre des annonces faites ou des engagements pris?
La mise en œuvre des engagements pris se fera conjointement entre les parties prenantes, c'est-à-dire que le gouvernement américain va faciliter. Et l'une des choses qui a été dite et qui sera faite, et on sait qu'il y a beaucoup d'argent que le gouvernement américain pour le déboursement de ces sommes-là, ça prend du temps. Donc, il y aura un suivi essentiel pour que les fonds alloués soient vraiment déboursés au plus tôt aux récipients. Il y a aussi que chaque société qui est en train de s'engager avec d'autres sociétés en Afrique vont communiquer entre elles, évidemment. Au niveau de la santé, je crois qu'il y a eu aussi des avancées. Par exemple, la société Ginkgo Biowork a signé un MOU avec le ministère du Botswana de la Santé pour augmenter les capacités du système sanitaire pour la prévention, la détection et le traitement des maladies.
Omar Haruna, ancien ambassadeur du Bénin à Washington, joint à Gaborone.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
La production de séries et de films à Hollywood à la croisée des chemins après les scénaristes à l'arrêt depuis plus de 2 mois. Les acteurs américains ont aussi décidé de se mettre en grève pour ce qui devrait constituer la pire paralysie du secteur en plus de 60 ans. Jean-Roger Bion nous en dit plus.
En rejoignant les scénaristes sur les piquets de grève, les acteurs provoquent un double mouvement social jamais vu depuis 1960 à Hollywood qui menace la production de séries et de films. La grève a débuté à minuit aujourd'hui, heure de Los Angeles, conformément à ce qu'avait voulu le syndicat des acteurs SAG-AFTRA après l'échec des négociations avec studios et plateformes de streaming. Fran Drescher, la présidente de cette organisation qui représente 160 000 acteurs et autres professionnels du petit écran.
Il semble que l'on nous manque de respect et que l'on déshonore la contribution massive de nos membres. Et pourquoi cela? Pourquoi essayeriez-vous de marginaliser quelqu'un qui est si important pour votre entreprise?
Scénaristes et acteurs réclament une revalorisation de leur rémunération en berne à l'ère du streaming. Le patron de Disney, Bob Iger, a fustigé leurs exigences qu'il a qualifiées d'irréalistes. Sans comédiens, les tournages sont désormais impossibles à Hollywood. Même la cérémonie des Emmy Awards, équivalent des Oscars pour la télé, prévue le 18 septembre, est menacée. La production envisage déjà de reporter l'événement en novembre, voire en 2024, selon la presse américaine. Le développement de l'intelligence rapide, qui menace de remplacer les professionnels du cinéma, ne fait qu'ajouter de l'huile sur le feu. Ces derniers souhaitent justement obtenir des garanties concernant l'usage de l'intelligence artificielle pour empêcher cette dernière de générer des scripts ou de cloner leur voix et images. Michael Vaccaro, acteur membre du syndicat des acteurs SAG-AFTRA.
Il y a évidemment de nombreuses questions, mais je pense que pour moi, en tant qu'acteur, la chose la plus importante concerne l'intelligence artificielle, toute chose liée à l'intelligence artificielle. C'est déjà en train de se produire, c'est déjà arrivé, devrais-je dire.
Nul ne sait combien de temps le mouvement pourrait durer. Les acteurs n'ont pas fait grève depuis 1980. La dernière grève des scénaristes qui remonte à 2007-2008 avait duré 100 jours et coûté 2 milliards de dollars au secteur. La double grève en cours confirme la crise existentielle qui frappe actuellement Hollywood.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Eric Manelakis à ce micro, à la mise en onde, Lionel Nanelagahima. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur votre site internet voafrique.com, vos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram. pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. Bon week-end à vous tous et à la prochaine. Et tout de suite.